podcast.com. Essaye ça.
Puis tu peux t'en servir, tu sais.
Attends, dis-moi ça, j'enregistre. Dis-moi ça.
Interstellar, la prémisse, c'est que l'amour est un fait scientifique et que tu peux t'en servir pour voyager à travers les dimensions. Ça, j'ai trouvé que c'était wouf clunky en tabarnak. Surtout que c'est comme s'ils définissent jamais vraiment c'est quoi l'amour non plus, là. Tu sais, c'est super vague.
C'est la quatrième dimension, même.
Puis, tu sais, l'amour pour sa fille, puis l'amour pour Anna Tawai, OK, mais l'amour pour son fils, non? Son fils, on s'en crisse, genre.
Puis, je sais que son fils, man.
C'est tombé cold. Fait que, ouais, j'ai eu de la misère un petit peu avec toute la prémisse émotionnelle de ce film-là. J'ai trouvé ça...
Moi, j'avais vu Le Martien juste avant.
Ah, ouais, oui,
c'est... Le Martien, c'était comme vraiment le fun. Surtout que je venais de lire le livre, puis je trouvais que comme la transition de livre à film était vraiment, vraiment très bonne. Mm-hmm. Fait que, tu sais, pour moi, The Martian, c'est juste comme, ah, enfin, un film comme scientifiquement-ish, accurate-ish.
Ouais.
Puis là, t'as comme Interstellar qui vient, tu sais, j'étais vraiment mindée sur, je vais voir quelque chose avec des faits scientifiques et tout. Fait que j'ai comme juste analysé ça sur une idée de faits scientifiques. Fait que, tu sais, comme le trou noir qu'on voit dans Interstellar,
l'hiver,
pis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai fait comme, c'est quand même des bonnes représentations des faits scientifiques. Ben, en fait, des théories scientifiques qu'on a, pis des hypothèses.
Une théorie, c'est un fait, hein, tu sais.
Ah oui.
Ben, non, mais je veux dire, scientifiquement parlant, quand on parle de théorie, on s'en sort comme fait, là.
Ouais, mais tu sais, c'est ça. T'as des théories, pis t'as des hypothèses de à quoi ressemblerait un trou de verre. Voilà l'hypothèse, pis... Tu sais, j'ai trouvé que c'était quand même assez bien représenté, puis aussi le deal du temps, à savoir que le temps n'est pas nécessairement linéaire, fait que le temps est probablement comme, tu sais, l'espèce de mise en scène avec toutes les pièces, puis tout ça, genre, fait que ça, j'ai vraiment aimé ça, comme, de cette optique-là.
Et pour pouvoir voyager dans le temps, ça prend le fioul, c'est...
L'amour.
Voilà.
Yeah! Ouais, non, cette affaire-là, par contre, j'ai fait comme, tu sais, je sais pas où est-ce que j'étais pendant qu'ils l'ont expliqué, mais je pense que mon cerveau a juste tourné off. Juste comme, puis genre, j'ai rien entendu parler de cette affaire-là. Fait que quand tout le monde était comme, oh, le gros deal, c'est l'amour, j'étais comme, j'ai pas vu le même film, tu sais. Fait que,
ouais. C'est le même que c'est l'amour.
Ouais, le film, c'est l'amour. Mais non, mais je suis d'accord, il y a des bons éléments là, dans ce film-là, là, on s'entend. J'ai pas trouvé que c'était juste de la grosse daube. J'ai juste trouvé que c'était vraiment niaiseux. Comparativement, mettons, à tous ces autres films, j'ai fait comme, waouh, celui-là, il est vraiment niaiseux, tu sais. puis tu sais, on s'entend, là, Dark Knight Rises, un autre super gros guilty pleasure. J'adore ce film-là, c'est tellement divertissant. Hostie que c'est cave, mais tellement divertissant, tu sais. Puis là, c'est comme si... C'est le film qu'il a fait juste après, en plus, je pense.
Ouais.
Fait que c'est comme, tu sais, il vient de faire Dark Knight Rises, puis là, ça, c'est son prochain film, puis il fait Interstellar, puis c'est comme supposé être son prestige picture, puis c'est encore plus cave que Dark Knight Rises, genre.
Puis après ça, il a fait Dunkirk, puis
après ça,
j'ai vraiment aimé Dunkirk.
Non, mais entre Dark Knight puis Interstellar, il y a... Il a fait le story de Man of Steel aussi.
Ah ouais, mais ça, on compte pas ça, là.
Non.
Je pense qu'on a le droit de pas compter ça, là.
Mais je pense qu'on a le droit de compter ça quand la mainmise des producteurs se sent. Puis là, on la sent en tabac.
Ah, ben dans Man of Steel, non. Moi, je pense que c'est une œuvre très Zack Snyder, moi.
Ben, Zack Snyder, puis aussi la maison de prod, genre, fait que... Ben,
moi, je la sens pas tant que ça, la moi, pour vrai, je trouve que c'est très... Ces deux films-là, là, Man of Steel, puis mais surtout Batman v Superman, mais Man of Steel aussi, je trouve que c'est deux films très, très... je pense que c'est la vision artistique de Zack Snyder presque à 100%, moi, ces films-là. Je reconnais totalement son style, je reconnais totalement ses thèmes. Je reconnais, puis tu sais, c'est super heavy-handed parce qu'il y a des niaiseux un peu, tu sais.
Ok, à juger. Voilà. C'est
passé
par la machine de Zack Snyder.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment, moi, c'est ça que j'ai vu. Là. J'ai vu genre comme Zack Snyder qui prend un synopsis de Christopher Nolan, puis il fait comme, ouais, mais tu sais, dans le fond, il va être un asshole. Puis là, tu fais comme, pourquoi il est un asshole? Ben, parce que c'est le plus puissant, là, il a le droit. OK!
Ben, je l'ai écrit dans mon scénario. Ah, OK,
c'est écrit là, là, page 2.
Ouais, non, c'est ça. Avec Christopher Nolan, c'est pour moi, genre son redeeming film, c'est vraiment genre Dunkirk, parce que j'ai vraiment aimé comme le propos puis le survol d'une guerre, là, en fait. Puis au niveau du temps, puis j'ai fait comme, tu sais, autant que c'est farfelu de faire genre voir qu'un soldat va se retrouver dans la merde autant que ça en 24 heures, tu sais. Autant que, genre, j'ai bien aimé que ce soit, genre, oui, tu sais, cette affaire-là est arrivée, il a fallu qu'on évacue des soldats, puis oui, le temps comptait, puis chaque seconde comptait, puis ça, j'ai vraiment aimé ça.
Ouais.
Puis, tu sais,
moi, c'est ça l'affaire avec Dunkirk, je te dirais, c'est que tout ce que tu viens de dire, là, je suis entièrement d'accord avec ça. La seule affaire qui m'a comme un peu sorti du film, c'est que il a comme insisté pour utiliser juste des humains. Fait qu'il y a comme... La plage a tellement pas l'air remplie de monde.
Ouais.
Comme, tu sais, on dirait qu'il y a... Puis tu sais, on a vu des photos là, de la plage de Dunkirk. Là, c'est bondé de monde. Tu sais, c'était ça qui était en train de se passer. Il y avait comme... Il y avait pas un espace de libre sur la plage. T'sais. Fait que je trouvais que ça enlevait vraiment beaucoup à la puissance du message par rapport au temps qu'il essayait d'avoir, parce que c'est comme si j'étais comme, ben, il y a juste 18 personnes, là, rentrez-les sur le bateau puis crissez votre camp. T'sais.
Mais t'sais, en même temps, t'avais eu comme un espèce de... Ben, je suis pas tout à fait d'accord, parce que, tu sais, oui, OK, la plage aurait dû être bondée, genre si on avait voulu être fidèle à la reconstitution historique, c'est juste que là, on voulait comme...
Mais c'est plus, moi je te dirais, c'est même pas pour la reconstitution, c'est vraiment plus pour le sentiment d'urgence. Moi je trouve que ça
déstabilise, en fait. C'est vraiment plus pour le sentiment de déstabilisation, de genre t'arrives sur une plage pis t'as personne, pis tu fais comme OK, mais là, je m'en vais où? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Pis comme tu sais, c'est faut que j'arrive à une telle place. Fait que tu sais, pour moi, c'est plus la déstabilisation qui était comme montrée dans cette affaire-là, plus que d'autres choses.
Ouais, moi, je te dirais, ça, tu peux être autant déstabilisé dans une foule de monde que personne sait qu'est-ce qu'on est en train de faire aussi, tu sais.
Ouais, mais tu sais, comme on rencontre des protagonistes qui viennent de recevoir des papiers comme quoi ils doivent aller, comme c'est urgent.
Ah non, mais ça, cette partie-là, ça va, là, mais ils sont pas sur la plage à ce moment-là, tu sais.
Mais non, c'est ça, mais c'est comme là, ils viennent d'une action comme qui était assez intense, puis là, c'est whoop, là, l'action s'arrête justement pour comme donner un frein. Puis genre, c'est comme plus dans cette optique-là, moi, je l'ai vu, c'est vraiment plus comme, tu sais, OK, là, je suis passée d'un chaos total à genre, c'est le vide. Fait que, tu sais, c'est...
OK.
C'est plus comme là-dedans que je l'ai vu. En tout cas, bref, c'est une perception. Ouais.
Fait que toi, tu penses que c'est un choix délibéré d'avoir fait une plage vide alors que tout le monde sait que la plage était entièrement pleine.
Ben, je pense que c'est aussi comme les contraintes du tournage, là, mais comme...
Ben, c'est ça, ouais.
En même temps, comme, c'est un choix de laisser ces affaires-là dans le film, puis je trouve que le choix est quand même bien pour saccader le rythme du film. Fait que,
OK. Ben, c'est ça. Moi, je te dirais, c'est vraiment l'affaire qui... Puis je savais, tu sais, dans le sens où, tu sais, Dunkirk, c'était quelque chose que je connaissais, mais que je... Tu sais, c'est pas l'affaire dont on a le plus parlé d'un cours d'histoire non plus, là, tu sais. Puis, fait pendant que je le regardais, je faisais comme... Il me semble que c'est weird qu'on dirait qu'il y a personne sur la plage, puis ça me gossait, tu sais. Puis après ça, je suis allé checker, puis là, j'ai vu les images de Dunkirk pour vrai, puis je suis comme, ouais, hein, ça avait raison de me gosser aussi. Tu sais, ils disent qu'il y a genre comme 150 000 hommes sur la plage, puis je suis comme, j'en ai vu 20. Que je sais, ils sont où?
Ouais, mais je pense que le ponton aussi, comme, servait pas mal plus de pseudo-plage que genre de, tu sais, pour avoir l'air d'une foule, là. Fait que je pense qu'ils ont juste massé tout le monde sur le ponton versus la...
Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était des fils en deux par deux pour attendre le monstre sur la plage. Puis après ça, t'as le ponton qui est plein de monde.
C'est ça.
Mais aussi, je pense que l'autre affaire qui a vraiment pas aidé Dunkirk pour moi, c'est que j'ai vu un film avant de voir Dunkirk. J'ai vu 1917 avant de voir Dunkirk. Tout le monde les a vus dans l'autre sens. Moi, j'ai vu 1917 avant de voir Dunkirk. Puis 1917, c'est bon en tabarnak.
C'est bon en tabarnak.
C'est vraiment... Puis aussi, ce film-là deal avec le temps d'une manière super intéressante. Puis, fait comme... j'ai trouvé ça solide, 1917. Ouais. Puis après ça, j'ai regardé Dunkirk, puis je me suis dit, faudrait bien que je regarde l'autre film de guerre, là. Puis, c'est l'autre film de guerre.
Ouais, non, c'est ça, c'est comme, vu qu'on enregistre, fait que d'un coup que ça se rend en onde, je vais juste dire une affaire, on écoute Dunkirk avant d'écouter 1917, parce que genre, sinon c'est dull, tu sais, genre, vous avez regardé meilleur les deux. 1917, j'ai adoré ce film-là, ça m'a jeté à terre, parce que comme, juste la logistique de faire des ce genre de travelling-là, puis ce genre de grand angle-là pour autant de personnes, c'est un casse-tête total. Puis comme, je trouve que Sam Mendes puis Roger Deakins s'en sortent tellement bien. Puis non seulement ça, mais c'est un survol de la Première Guerre mondiale pour vrai. On a le No Man's Land, on a les tranchées, on a tout ce qui est locomotion, on a les villages, on a tout ce qui est attrait comme dans les villages, dans l'eau aussi, les choses comme ça.
Balistique, aviation, tout est covered.
Tout, il y a un fil intéressant, puis il y a des twists aussi très le fun, qui sont très aussi guerre dans le style de la guerre. Fait que j'ai 1917, puis la trame sonore, gros coup de cœur de 2019. Christ, un bon film. Voilà.
Ah oh, oui, vraiment. Puis même, tu sais, comme juste au niveau des performances, puis tu sais, je veux dire, spoiler, là, on est en train de parler d'un film que j'imagine qu'on enregistre. Ah ouais, on enregistre. Fait que, est dans un show, critique exquise.
La nuit.
et on parle de films en général. 1917, c'est vraiment de la grosse bombe. Puis tu sais, la première twist du film, à moins que tu te la sois fait dire, c'est impossible de la voir venir, là. T'sais, le protagoniste meurt dans le premier acte, tu sais, c'est comme « Wow, shit, ok, c'est ça qui se passe, genre. » C'est le début du deuxième acte, c'est le protagoniste qui se fait tuer, tu sais.
C'est pour ça qu'ils ont eu le score du meilleur maquillage, parce que c'est un maquillage en temps réel.
Ah oui, c'est vrai.
Et ça, je savais pas ça, mais genre, j'ai fait des petites recherches, je me rappelle plus où est-ce que j'ai lu ça, mais comme le maquillage qu'ils ont utilisé, parce que comme le gars, il se fait vider de son sang, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que sa face, ça va devenir blême. Mais genre, tu peux pas demander à un acteur, genre, « Hey, peux-tu comme... »
Couper le sang à ta face.
Peux-tu devenir blême, s'il te plaît?
Fait que, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une poudre qui peut s'oxyder, puis en s'oxydant, ça devient plus, plus pâle. Fait que, mais tu sais, comme ça, c'est ce que j'avais lu, à savoir si c'est vraiment ça qui s'est passé. I don't know. I'm not a makeupist. Mais genre, ça aurait du bon sens de prendre quelque chose qui s'oxyde vraiment rapidement, puis que ce soit un effet d'oxydation comme ça, mais genre, j'étais comme aïe aïe, tu sais. Ça peut être fait en post-prod aussi, c'est juste qu'en post-prod, c'est un peu comme dégueu. Fait que, genre, je vais être comme bon.
Ils ont peut-être fait un mélange des deux aussi, là.
Ils ont peut-être fait un mélange des deux.
C'est sûr que s'ils ont utilisé un maquillage, ils ont fixé quelques petites affaires en poste. Surtout si c'est juste pour transformer du blanc en plus blanc. C'est pas les affaires qui ressortent le plus en post-prod, là, même si c'est dans une face d'humain. Puis,
ouais, c'est un peu touchy.
Faces d'humain. Tant qu'ils bougent pas, les faces d'humain, c'est correct.
Ouais,
ils bougent.
Fait que, en tout cas, j'ai, tu sais, make-up. 1907, ça crie ça de bon sens. Puis, meilleure direction photo, 110%. De toute façon, Roger Deakins, c'est toujours comme Matt Trump Cart, là. Fait que, tu peux pas ne pas donner l'Oscar du meilleur, la meilleure direction photo à Roger Deakins. Tu peux pas lui enlever cet Oscar-là, ever.
Fait que, il va le gagner à chaque année.
Genre Blade Runner 2049, Roger Deakins.
Il va le gagner à chaque année.
Comme Meryl Streep qui n'a jamais gagné. Voilà.
Puis à part de ça, vous regardez le preview de Dune?
Oui!
Non. Mm-hmm. Je veux pas le voir.
Il ne l'a pas regardé. OK.
Moi, je veux voir le film parce que si je regarde le preview, c'est sûr que je vais être excité comme un petit garçon. Là, je vais regarder le film, puis ça se peut que je sois déçu. Fait que juste au cas, je vais pas le regarder.
Ouais. C'est fait.
Je te dirais, moi, je pense que les chances sont très minces qu'on soit déçu.
Oui, oui, mais quand même. Je me garde l'excitation.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que ça sort cette année, hein?
Oui, ça sort le 18 décembre. J'ai marqué ma date.
Sacrement, hein?
On va-tu aller le voir au cinéma?
Hey, ben, j'espère. Pour des rues.
Ah, man, je veux tellement, mais en même temps...
Ben, je veux tellement, mais je veux tellement pas, là.
Ouais. Ben, je veux qu'il y ait un vaccin.
Oui, c'est ça l'affaire. Ouais, mais... Et le vaccin va arriver en début octobre, puis on va tout y retourner pour deux ans.
C'est que ça serait hot, hein?
Mais.
2020 réglé.
Mais je veux pas chier sur Shit on Your Parade, mais un des vaccins les plus avancés est retourné en clinical trial aujourd'hui. Donc.
Clinical trial is good.
Oui, mais il est retourné plus bas qu'il était. Parce qu'ils ont découvert des effets pires que la COVID-19.
Oh, fun times! OK, c'est bon.
Puis pendant que je parle de la COVID-19, by the way, le virus peut infecter votre cerveau, ce qui fait que vous avez des symptômes tels que de la schizophrénie et vous pouvez mourir de manque d'oxygène au cerveau.
Mm-hmm.
C'est le fun, hein?
Ouais.
Ouais.
Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous, parce que cette année, il y a un film du nom de Top Gunner qui est sorti avec Eric Roberts, fait par nul autre que The Asylum, et je vous invite à le regarder.
Il y a tellement des beaux feux, Eric Roberts.
Ouais, c'est un colonel dans un film d'action fait par... j'ai mis le lien dans le Zoom si vous voulez aller voir, c'est le premier en haut. Je l'ai downloadé, je ne l'ai pas encore regardé, mais s'il y a un film d'Eric Roberts avec des avions, ça doit être bon à Chris.
Est-ce que tu en as parlé à Pascal? Je suis sûr qu'il va
être... Non. Non, je pense pas. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Pascal. Non, c'est pas vrai. J'ai dit tantôt que j'allais y pitcher des billets de 5$ parce que ça allait devenir un stripteaseur.
Ah oui, avec son truc de Magic Mind.
Ouais. Puis il y a un film de Russell Crowe qui a l'air vraiment obèse en 2020, qui est sorti récemment, le 21 août.
Russell Muscle Crowe.
Ouais, qui s'appelle Unhinged, qui a l'air d'un film complètement débile avec du monde qui meurt à tout bout de champ. Donc, c'est mes deux prochains films que je vais regarder. Si jamais ça vous tente, on pourra en jaser dans le futur rapproché.
Moi, j'aimerais bien. Puis sinon, c'est ce Army of the Dead de Zack Snyder.
Ouais, ben c'est ça. C'est avec Dave Bautista.
Ben, c'est la suite. C'est la suite de son Dawn of the Dead.
J'imagine que oui.
Ouais.
C'était-tu son premier film?
Ouais, c'était son premier long métrage et son meilleur aussi, d'ailleurs.
Moi, j'avais bien aimé Watchmen.
Oh.
Ah ouais?
C'était correct.
Ouais. Moi, j'avais aimé ça.
Ben, dans l'univers, il y a deux Watchmen. T'as le film Watchmen, puis t'as le comic Watchmen.
Ah oui, ben là.
C'est ça. Je pense que c'est un film qui a très très mal compris son source material. J'ai rarement vu un film qui a autant mal compris son source material, sauf genre un autre film de Zack Snyder, mettons là. Choisis-en un.
Watchmen en tant que le film qui en est sorti n'est pas un film dégueulasse. C'est juste que quand on le compare à sa source là,
mais même je te dirais comme thématiquement, genre c'est un film qui a complètement l'opposé de Watchmen, qui est comme à l'opposé du comic book complètement. Là, Watchmen, c'est déprimant, genre, c'est pas glorieux, la violence n'est pas glorieuse, elle n'est pas glorifiée. C'est vraiment, quand il y a de la violence, c'est parce que c'est désagréable, puis ça finit jamais avec comme des scènes de fourrage dans un vaisseau spatial avec du feu qui shoot sur Alléluia de Leonard Cohen. Ça n'arrive pas dans Watchmen.
Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai vu Watchmen avant de lire le comic book.
Ouais.
Puis je pense que si tu fais ça dans ce sens-là, je pense que le film est beaucoup plus appréciable que si tu fais l'inverse.
Ouais, probablement.
Ça. Le film est plus appréciable quand t'as jamais, quand t'as pas de référence.
Mais, ouais. Je pense que même mon, mais moi aussi, tu sais, dans le sens où je suis pas un fanboy, puis ça me dérange pas des interprétations différentes de quelque chose, là, tu sais. Mais dans ce cas-là, je pense que la vision de Zack Snyder de ce que c'est Watchmen, c'est inintéressant. Ouais. C'est divertissant, mais c'est inintéressant. Tandis que la version de Alan Moore de ce que c'est Watchmen, c'est extrêmement intéressant et divertissant. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé, la série télé de David Lindelof, qui est super bonne pour vrai.
Qui est vraiment bonne,
Ça s'appelle Watchmen. C'est la suite du comic book.
Ouais. Puis genre, honnêtement, au niveau des thèmes, Chris, c'est bon.
Ah, ça marche super fort, là. C'est
une rare fois que Damon Lindelof fait Bullseye.
Ah, moi, j'ai trippé sur Leftovers, là.
Ah oui, c'est vrai, j'ai pas vu Leftovers.
Ouf! Leftovers, c'est de la grosse bombe. Okay. Moi, j'avais pas peur quand j'allais voir Watchmen, parce que Leftovers, c'est le dernier truc qu'il a fait, puis Christ que c'est bon.
OK.
C'est trois saisons complètement différentes aussi, genre, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il fait avec ses personnages? Ouais, c'est vraiment nice.
Puis c'est une mini-série, ça fait que ça a pas genre 42 épisodes. Ça
non, c'est
juste
genre
9
ou 10,
genre.
Ouais. Nice.
Non, c'est pas Game of Thrones.
Non, mais je veux dire, t'as toujours un ou deux shows que c'est genre des saisons après des saisons, mais je pense que le thème de Watchmen, s'il était étiré, ça serait pas bon.
Non, c'est vrai, quand c'est vraiment nice, c'est super bien fait, c'est vraiment nice, ça expand sur la mythologie qui existe déjà, ça travaille des thèmes sociaux super intéressants, puis il y a une fin.
Oui.
Ça, c'est important.
Ouais. Ça finit, puis c'est la fin de cet épisode-là de Watchmen.
Ouais, non, mais ça c'est... Il en faut. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de séries télé qui n'ont pas compris le message. Fait que en tout cas, je trouve ça rafraîchissant quand il y a enfin une fin, puis c'est pas supposé être mon ressenti. Voilà.
Fait que c'était meilleur que Lost, finalement, c'est ça.
J'ai beaucoup aimé Lost.
Mais
jusqu'à la fin.
C'était tellement de la crise de ma tante.
Donc. Moi, ça me fait rire le monde qui me dit « Ah, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, mais à la fin, c'est de la merde. » Je sais pas. Moi, c'est venu comme ruiner tout le reste des trucs que j'ai regardés, tu sais. Mais ça, c'est très personnel, propre à moi, là, évidemment.
Ouais, ben...
Voilà. Là, c'était encore une grande, belle grande partie dans mon cœur parce que j'ai tellement eu comme un gros trip sur Lost. Mais genre, let's face it, là, la saison 6.
Ben, il y a combien de saisons à Lost?
6.
Ouais. Moi, j'ai arrêté, je pense, à la saison 4. Je veux dire que j'ai arrêté à la saison 4, je pense. Pas, genre mid-season, soit la 3 ou la 4. J'ai arrêté la saison que ça commence à être des flash-forward au lieu d'être des flashbacks.
Ouais, saison 4.
Ouais. C'est là que j'ai arrêté, genre, troisième épisode de la saison 4. J'ai fait comme, OK, je m'en crisse. C'est vraiment arrivé de même. J'ai vraiment fait comme, OK, je m'en crisse. Je m'en calisse de tous ces personnages-là. Puis je viens comme... Ça m'a fait à peu près la même affaire avec Walking Dead, genre à la quatrième saison aussi. Là. Je vais être comme, OK, je m'en crisse. Je m'en crisse de tout ce qui vient de se passer.
Walking Dead, j'ai regardé 4 épisodes parce que j'ai commencé du bon sens. J'ai lu les comics. Mm-hmm. Je me suis arrêté aux comics à peu près quand ils se font envahir dans la prison. En contexte pour le monde qui ont regardé. Puis j'ai pas continué après. Puis quand j'ai regardé les 3 premiers épisodes, j'ai fait « Ah shit, hein, ça va être long. Oh. Oh, ça me tente-tu vraiment? » Et la réponse fut un catégorique non. Ça me tente pas en tout.
Moi, j'ai bien aimé The Walking Dead aussi, mais j'ai abandonné quand c'était un rinse and repeat puis que je voyais genre juste, il n'y a plus de lueur à la fin du tunnel. Genre, c'est juste un straightforward de rinse and repeat. Puis j'ai fait comme, hey, d'autres choses à faire dans la vie. Là. Fait que voilà.
Ben, les comics sont comme ça. À un moment donné, il n'y a plus de bras, il n'y a plus ci. C'est comme, hey... C'est quoi? Ouais. Il va finir, ça va être un tronc avec une tête dans une chaise roulante électrique qui va avancer avec sa bouche? Là, c'est quoi qui va perdre après un œil, l'autre œil, le nez, les oreilles?
Je veux bien croire que l'humanité est méchante, pas fine, mais genre quand l'humanité est dans merde, là, genre faire des petits groupuscules qui vont juste tapocher d'autres personnes puis trouver leur fun en tapochant d'autres personnes. M'excuse-le, il y a d'autres choses super importantes à faire pendant comme une extinction. Fait que genre, tu sais, il y a juste des groupes qui font juste, tu sais, crapahuter en essayant de pogner d'autres personnes pour leur péter à gueule, puis juste comme, non, on se pousse.
Il me semble que moi, personnellement, j'aurais d'autres calices de choses à faire. À un moment donné, là, genre, ben, avoir la sainte paix, faire pousser mes légumes, asti, je sais pas. Là.
Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, après ça, on commence le truc. Mais non, c'est toujours la même affaire. Il y a toujours 3-4 dudes qui s'en vont, genre, crapahuter dans la forêt pour tabasser du monde qu'ils trouvent, puis que c'est pas des zombies, parce que c'est plus facile de tapocher du monde, tu sais. Fait que non. Genre, hey, c'est vraiment étrangement venu me chercher cette affaire-là.
Ben oui, hein, mon Dieu. Moi, je veux dire, comme je comprends ton. Je comprends ta. Je pense que c'est plus. Le problème est dans la répétition plus que dans la. Oui. Parce que je pense que c'est très. Je veux dire, si on était en apocalypse de zombies, je pense que ça ressemblerait à ça, là.
Ouais, mais
cave en hostie, là, les humains. Là.
Ben, à un moment donné, comme une fois que tu as sécurisé ton campagne, une fois que tu as comme. T'es autosuffisant. À quoi ça te sert de faire le tour de l'étau au grand complet pour essayer de trouver d'autres humains puis pour les ramener chez vous pour faire comme herder, regarder ils sont pas comme nous autres puis les tapocher? Juste comme, tu sais, un moment donné.
Parce qu'on est que des suprémacistes blancs, ça existe.
Oh, regarde, les suprémacistes blancs, là, il y en a plein qui sont survivalistes puis qui feront pas ça, ils vont juste mourir dans leur bunker.
Oui.
Fait que, tu sais, je veux dire, un moment donné, comme, tu sais, oui, il y a la répétition, puis un moment donné, il faut que tes personnages, tu sais, grandissent, puis genre, à force de répétition, puis faire comme, hey, cette même trame narrative a déjà fonctionné, je vais la réécrire, mais différemment, puis tu fais comme...
Souviens-tu, la dernière fois, il y a 5 épisodes, quand t'as fait la même chose, puis qu'il s'est passé exactement la même chose?
Ben, fais la même chose, tu sais, hey!
Try again, maybe this time it'll work! Je savais pas que Damon Lindelof avait écrit le fabuleux Prometheus.
Oui, yes. Effectivement, c'est de lui, ça. C'est une œuvre de Damon Lindelof et on n'en parle pas, d'ailleurs.
Ah, pis, non, on en parle, mais on n'a peut-être pas son nom à cette affaire-là.
Non, mais je veux dire, lui, il n'en parle pas. C'était ça que je voulais dire, en fait.
Cowboys and Aliens.
Cowboys and Aliens, y a-tu son nom en tant que scénariste là-dessus?
Screenplay, ouais.
Ouais, parce que c'est pas un Alex Kurtzman, Robert Orci, ça?
Attends, ben, il a fait le screenplay, fait que...
Check donc Alex Kurtzman.
Boy, ben oui.
Ouais, c'est ça.
Attends, check ben, il y a 1, 2, 3, 4, 5... Il y a 7 crédits au screenplay et writing.
Ouais, c'est ça, parce que comment il pourrait y en avoir moins pour ce film-là, pour vrai?
Comme, je sais pas.
C'est sûr que c'est un film à 7 scénaristes. Là, t'sais. Moi, pour vrai, là, Cowboys and Aliens, là, c'est pas un bon film, mais moi, celui-là aussi, c'est un gros guilty pleasure pour moi. J'aime beaucoup ce film-là. Je le trouve super divertissant. C'est ça.
Il y a le fun.
Il y a des setups, il y a des payoffs. Puis Damon Lindelof, il en a écrit un 7e.
Ah là là. Ah, c'est vrai. Il a écrit Star Trek Into Darkness aussi.
Mais ça aussi, c'est Robert Orci et Alex Kurtzman.
Il y a juste 4 screenplays, fait que c'est pas
super. Ah ouais, c'est surprenant.
Attends, written credit, Gene Roddenberry. Voyons.
Ouais, ben oui.
Il était mort depuis 30 ans, c'ti.
Ouais, mais il fallait tirer ça de l'œuvre d'eux, là, puis il faut qu'il crédite pas.
Ouais.
Ouais.
Fait que voilà.
Ah, fait que Gene Roddenberry, il a pas participé au scénario, là, on s'entend.
Ben, j'espère que non, c'ti.
Non. Ben, à part pour les noms des personnages, genre.
Ça, c'est comme Gene Roddenberry est juste rendu un cerveau dans une espèce de cage avec genre juste un truc pour parler, puis il dit genre à ton scénariste quoi écrire.
Make Spock again.
T'sais, non, Spock. Mais il est mort. T'sais. Non, mais mettez-les dans. Ok, fine. Tu sais, c'est genre.
Alex Kurtzman et Robert Orci. D'ailleurs, Robert Orci qui.
Roberto.
Ouais. Roberto aussi, qui est un... c'est pas un flat earther, c'est un 9-11 truther. Ah, ouais, ouais. Il travaille plus d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous avez vu Star Trek Into Darkness, c'est un film de 9/11 Truther. C'est une conspiration d'attentats terroristes avec un avion qui rentre dans un building au début.
Mais en fait, il est encore producteur sur Hawaii Five-O, qui est rendu à 181 épisodes.
Oh shit!
Ouais, j'étais pas prêt moi non plus.
Non!
j'étais.
Oh pis, non!
Puis, excuse-moi, il les écrit aussi.
Oh non!
Ah oui!
Oh oui! Ah fuck! Ben oui, mais c'est ça qu'il fait.
Ça doit être tellement.
En fait, le dernier film qu'il a écrit, mais uncredited, c'est Star Trek Beyond en 2016. Puis après, il
a. Ouais. Il est sur Star Trek Beyond, lui?
Ouais, mais il n'est pas crédité. Fait que d'après moi, il a commencé puis il n'a pas dû faire bien longtemps.
Ouais.
Café, c'est ça qui se passe.
Puis Sleepy Hollow aussi. La télésérie Sleepy Hollow. Ouais, comme écrivain.
Eh ben. Hey, c'est-tu juste pour en parlant d'affaires déprimantes, là? Juste fun fact de même, sais-tu combien il y a de saisons de Ghost Adventures?
16?
19.
Ouais.
Arrête.
Attends, tellement le fun, Ghost Adventures. C'est juste des douchebags qui crient dans le noir.
Je sais.
D'ailleurs, j'ai jamais regardé un épisode.
C'était ça le titre original de l'émission. D'ailleurs, c'était Douchebags Screaming in the Dark.
J'ai jamais regardé un épisode de ça.
Pour vrai? C'est légendaire.
Si tu peux regarder l'épisode d'Halloween qu'ils ont fait live avec la boîte de Dubuc, là. Oh boy! Ça, c'est un malaise tout le long, là.
Oh god! Mais tu sais, en plus, comme, tu sais, quand c'était le trio d'origine, tu sais, t'avais comme le douchebag en chef qui arrêtait pas.
Mais Zach Bagans, c'est 23 saisons, Bruno.
Ah, fuck.
Oh my god!
Non, attends, t'es-tu sur IMDB, là?
Non, c'est sur Amazon. Attends. Saison 23, il y a 10 épisodes.
Ah, ouais, hein?
Hey, tu fais Google, Ghost, 23 saisons.
Mais tu sais, c'est ça, t'avais comme le. Wow. Dans l'équipe originale, t'avais genre le Aaron, qui était genre le petit boss boy. T'avais comme Nick, je pense que c'est ça son nom, qui était comme le bras droit de Zach, qui était le douchebag en chef. Puis à chaque fois, ces deux-là s'organisaient pour chier sur Aaron, qui était comme leur ami. C'était comme, yo, faudrait qu'on investigue en criant comme des niaiseries à un démon. Nous autres, on va s'occuper du rez-de-chaussée. Aaron, pourrais-tu comme aller tout seul dans une pièce noire, essayer de crier sur quelqu'un? Puis là, c'est comme, j'aime pas être tout seul dans une pièce noire. Non, mais il faut que tu le fasses pour nous autres. Puis genre, à chaque fois, c'était genre le pauvre petit qui allait, tu sais.
Aïe. OK, ben, il va falloir que je regarde une couple d'épisodes de ça, d'abord.
Ah, c'est vraiment niaiseux.
C'est beaucoup, beaucoup de niaiserie. C'est surtout comme... Ah, c'est des douchebags, des douche bros, genre, dans une maison qui font juste comme gueuler sur des démons, puis genre...
Puis l'affaire qui est vraiment intéressante par rapport à... Je pense principalement à Zach Bagans, mais à tous ces gars-là, c'est que je pense qu'ils sont comme... Toutes 50% des charlatans, mais toutes 50%, ils croient pour vrai.
Ouais.
Tu sais, dans le sens, j'ai l'impression que c'est des gars qui sont persuadés que le paranormal existe, mais ils n'ont jamais été capables de filmer quoi que ce soit.
Non,
mais ils veulent que le monde, ils veulent rallier du monde à leur cause, fait qu'ils fake des affaires. Mais ils sont sûrs que ça existe pour vrai, là.
Mais ça le dit dans l'intro.
Ouais.
Tu sais, c'est genre, je suis à la recherche des fantômes depuis toute ma vie, puis genre, blablabla, bla, bla, puis genre, ça comme ça, toute une prestance comme intéressante, de genre, tu sais, j'ai toujours voulu essayer de prouver ça, puis maintenant qu'on a des caméras là, on peut prouver ça, puis tu sais, quand on c'est plus
genre... J'ai fait un film en 2004 dans lequel je fakais deux affaires de fantômes, et depuis, je veux prouver l'existence des fantômes.
Puis,
il y a un spin-off qui s'appelle Sam and Colby Ghost Adventures sur Prime Video.
Ah ben oui, ça n'en prend plus. C'est comme Walking Dead, il y a deux émissions de Walking Dead à cette heure parce qu'une, c'était pas assez.
Ah. Pour vrai?
Ouais. Il y a une deuxième émission de Walking Dead qui s'appelle Fear the Walking Dead.
Parce qu'il était rendu trop creux dans la série principale, puis en fait comme wow. Ce qui est intéressant là, dans une pandémie de zombies, là, c'est le début. Fait qu'ils sont revenus au début.
Montrer d'autres personnages, puis aussi en même temps, parce qu'à un moment donné, on le sait, on va se tanner des personnages dans cette série-là.
On va faire un crossover.
C'est ça, il y a d'autres personnages que le monde se sont attachés à parce qu'ils sont encore dans leur origin story, puis ça, c'est la partie la plus intéressante de toutes les histoires.
Oui. Je vais faire un autre segue sur la déprime. Supernatural en est à sa 18e saison. Ça fait 20 ans qu'ils font ça.
Mais eux autres, ils ont eu un hiatus, par exemple, non?
Oui, ouais, mais ça fait 20 ans qu'ils font ça.
Wow.
C'est...
Wow. Ouch.
Mais est-ce que Virginie est à sa 15e saison depuis 96?
C'est pas faux.
C'est pas fini, là.
Attends, ça roule plus, Virginie, là.
Ben oui! Ils l'ont relancé?
Ben non.
Ben je te jure.
Ben tabarnak.
Je suis pas mal sûr qu'ils l'ont relancé. Attends une minute, laisse-moi aller voir. Il y a...
Ah, pensez-vous que les Simpsons vont péter le 50?
C'est sûr.
Oui, c'est sûr que oui. Ça finira jamais, les Simpsons. Puis c'est les poches,
ça finira. C'est comme les nouvelles.
Ben. Puis ce qui est hot de ça, c'est que ça fit dans le thème. Comme ça va devenir sur ce sur quoi ils critiquent un jour.
Ah oh, ouais,
c'est fantastique.
Full circle. Ah, puis c'est Disney en plus.
Ouais.
Ah ben oui, c'est tout appartient à Disney à ce temps.
Ouais, Disney a tout fait gosser ce qu'on aimait.
Fait que Fabienne Larouche et Radio Can ont conclu un accord pour une diffusion prévue jusqu'en 2016 pour 16 ans, 1920 épisodes de 30 minutes de Virginie.
Oh my God.
Jusqu'en 2016?
Oui.
Ben, on est en 2020, là.
Non, je sais, mais ça dit pas que c'est arrêté. Ça veut dire qu'ils prévoient continuer pareil, tu comprends? Dans le sens qu'ils avaient signé, en fait, saison 12... Du 18 décembre au 19 décembre. Septembre 2015. OK, ils sont en rediffusion encore. Fait que c'est pour ça qu'ils ont décidé que c'était pas fini. Parce qu'ils rediffusent. Puis là, ils sont rendus à la saison 12 sur 16. Fait que j'imagine que cette année, ils vont faire 13 puis 14, je sais pas. Mais oui, okay. Il avait repris avec Marina Orsini, Guillaume Lemaitre-Vierge, Marie-Lou Wolfe et compagnie. Là.
J'ai un erratum à faire. Supernatural a commencé en 2005, ça fait 15 ans qu'ils font ça, puis ils en sont à leur 15e saison.
Ah, d'accord.
C'est quand même, c'est moins pire qu'à leur 19e saison, mais genre, ça fait quand même beaucoup de saisons.
Moi, tant qu'ils en ont moins que Ghost Adventure, je suis content. Là.
Puis le spin-off, Sam and Colby Ghost Adventures, les deux gars, c'était des YouTubers. Et dans le premier épisode, ils sont présentés comme des... Attends. Social media duo trying to teach the world their ideas.
C'était-tu sûr qu'ils s'étaient fait pogner à ouvrir la porte, là? Qui avait juste uploadé la vidéo au complet où est-ce qu'ils disaient genre comme... Elle bouge la porte quand j'arrive proche, puis que je dis ce mot-là, puis là, il recule, puis il commence à avancer, puis là, la porte rouvre, fait comme « puis il capote. Il a uploadé toute la vidéo au lieu de faire le montage.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais, je pense que c'est exactement ça. Là. Fait qu'elles autres, tu as une série Amazon Prime de 2019, une saison, wow. Évidemment.
Wow.
Ouf. Ouais.
All right, on va se coucher?
Ouais, je pense que les critiques exquises...
La nuit,
c'est done deal.
C'est ça. On finit tout ça comme n'importe quel autre épisode de critiques exquises.
Okay.
Je finirais en disant que Alex Kurtzman a écrit beaucoup, 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 beaucoup de dompes. Et
oui.
Puis...
oui.
J'étais en train de... C'est ça. Fait que c'est okay. Ça, ben, hein, on remercie podcast.com. On est sur Spotify, Twitter. Likez-nous. Venez vous inscrire à notre Patreon. je sais plus quoi dire.
Like, partage, abonne-toi.
C'est ça, yes.
Pour la, c'est la fin de la première édition de Critique Exquise Unplugged.
Oui, puis c'est hot parce qu'on ça fait. On a commencé à 8h30, il est maintenant 23h. On a fait une émission d'une heure et quart. Et là, ça va faire comme 2h30 qu'on fait juste parler.
Puis on n'a pas fini. On entend pas mal de sacs à vider, je pense. Ah ouais.
Parce qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose, on parle de quelque chose d'autre après. C'est fun. Ouais. Sur ce, mesdames, messieurs et autres, bonne soirée, bon matin et bonne journée. Yeah.